Il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », diffusée chaque mercredi par l'association Palestine 13, réplique départementale de l'association France-Palestine Solidarité, et je suis Vincent. Merci à Sidi qui assure la technique. Notre ex-revue de presse, devenue replay, traitera de deux questions. Dans l'ordre, le dérapage sévère perpétré par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a repris à son compte une fake news contre Francesca Albanese en demandant sa démission à son de trompe parce qu'elle aurait dit « Israël est l'ennemi de l'humanité », phrase que la déléguée de l'ONU aux territoires occupés palestiniens n'a jamais prononcée. Depuis, le ministre a retiré sa demande de démission de la diplomate onusienne, mais n'a présenté aucune excuse à Francesca Albanese. Excuse et démission seraient la suite la plus digne pour ce ministre. C'est sur la toile que nous avons trouvé la meilleure présentation de ce sinistre épisode posé par un communicant sous le pseudo ironique de « Le Maréchal ». Je cite « Qui est ce minuscule ministre français, insignifiant, au charisme d'un moustique, représentant d'un État complice d'un génocide, de surcroît pour exiger la démission d'un monument d'humanisme, de droiture, de courage et de beauté politique comme Francesca Albanese ? Comme c'est touchant, autant de célérité antiraciste chez M. Barrot, représentant de l'impérialisme français, pour participer au lynchage de Francesca Albanese en falsifiant ses propos et en exigeant sa démission à partir d'une fake news fabriquée par les sionistes, alors que dans le même temps, il continue à soutenir le génocide des Palestiniens, à protéger Netanyahou, qui peut survoler le territoire français sans en être empêché, qui n'exige même pas de sanctions contre Israël ni contre les militants sionistes, pro-génocide, députés dans son propre parti ou ministres, collègues de son gouvernement. C'est abject. Fin de citation. Nous entendrons autour de cette affaire une interview de Francesca Albanese sur la chaîne YouTube du journal L'Humanité. La seconde question sera celle de l'exclusion de Gaza de 37 ONG d'assistance médicale décrétées par Israël, dont la plus représentative, Médecins sans frontières. Même si la Cour suprême israélienne a suspendu temporairement cette exclusion le 27 février. Pour y voir plus clair, nous entendrons une interview menée par Elba Ramouni de MSF avec Ronnie Bronneman qui analyse ce projet d'interdiction en le replaçant dans une continuité marquée par deux années d'entraves systématiques à l'acheminement de l'aide humanitaire par Israël. Enfin, aujourd'hui, ça fait 858 jours que la presse internationale est interdite d'entrer à Gaza. Et nous déplorons plus de 650 Palestiniens, tous civils, tués depuis le cessez-le-feu du 15 octobre 2025, dans des bombardements ou par des tirs ciblés de snipers. Maintenant, Francesca Albanese s'entretient avec Vadim Kamenka de la chaîne L'Humanité.
Depuis plusieurs jours, la rapporteuse spéciale pour les territoires palestiniens à l'ONU, Francesca Albanese, essuie de violentes critiques jusqu'au sommet de l'État en France. Pour en parler, nous sommes ravis de vous accueillir, Francesca Albanese. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez venue à la Fête de l'Humanité en septembre dernier, donc on est encore une fois ravis de vous revoir et de vous accueillir. Voilà, cet emballement médiatique donc vient de propos que vous auriez tenu en visioconférence lors d'un forum organisé le 7 février à Doha, par la chaise Al Jazeera. Notamment, c'est Caroline Yadan, la députée Renaissance de la 8e circonscription des Français établis hors de France, dont Israël fait partie, vous accuse d'avoir déclaré, je cite, « Israël est l'ennemi commun de l'humanité ». Qu'est-ce que vous avez dit exactement lors de ce forum ?
Non, exactement. Alors, tout d'abord, laissez-moi dire que je trouve choquant cette attaque virulente par l'autorité une des plus importantes du gouvernement français. Il ne parle pas à son nom, il parle au nom de la France. Et j'espère que, disons, les gens qui vont écouter en France cette émission vont se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé. Mais on parle de ce que j'ai dit et le contexte dans lequel je l'ai dit. J'étais invitée au Doha Forum de Al Jazeera où j'ai pas pu participer parce que j'étais en voyage en personne. J'ai envoyé une vidéo. C'était dans un contexte où il parlait des profs universitaires, des juristes, comme l'ancienne procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda. Et déjà ça, c'est la première nouvelle fausse que le ministre a évoquée dans l'hémicycle en disant que j'étais je parlais dans un panel avec un ministre israélien, pardon, un ministre iranien et un représentant du Hamas. C'est faux. Deuxièmement, il a dit que j'aurais accusé la nation entière, le peuple israélien. Ce n'est pas le cas. Et que j'aurais, en plus, il m'a attribué une phrase que je n'ai pas dit. Et en fait, ce que je dis, c'est, j'ai fait, il dit que j'ai avancé ce propos d'Israël comme ennemi commun de l'humanité. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je parlais des crimes d'Israël. En fait, je dis tout le temps qu'Israël est un État qui commet crimes de guerre, génocide et apartheid. C'est déjà assez grave, c'est de ça qu'on devrait parler. Et j'ai dit que notre ennemi commun en tant qu'humanité, c'est le système qui a permis le génocide, y compris le capital financier qu'il a soutenu, les algorithmes qui ont été contrôlés de façon à dénigrer les Palestiniens et la solidarité avec un peuple de civils ont été massacrés. Et disons, le discours politique qui a défendu Israël et aussi l'a armée. C'est ça. Et voilà, il y a une vidéo sur ça. Alors, je trouve vraiment grave que le ministre se laisse disons, à des accusations très graves sans avoir vu les preuves, parce qu'il n'y a pas de preuves. Et encore, il m'a accusé d'avoir comparé Israël au Troisième Reich, c'est pas vrai, d'avoir justifié les attaques de 7 octobre, que c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. J'ai condamné les attaques contre les civils israéliens, mais des centaines de fois. Et là, l'autre chose, c'est le contexte. J'ai jamais vu une réaction autant forte vis-à-vis les massacres qui se sont produits et qui sont documentés, vis-à-vis la documentation portant par les organisations israéliennes, internationales, la commission d'enquête qui en conclut qu'Israël commet un génocide. Un ministre d'un État qui ne se prononce pas sur ça, mais qui par contre attaque et questionne l'expérience et l'indépendance de qui ces crimes documentent. Et bon, j'étais choquée, mais je pense que ça révèle, en fait, au lieu de nier, ça confirme ce que je disais à Doha, en fait, au forum de Doha. Il y a tout un système qui a la tendance à justifier Israël, n'importe quels sont les crimes, et ça augmente son sens de l'impunité. On accuse le messager et pour ne pas s'occuper du message. Mais là, vraiment, il faut que j'efface suite à tout ça. Je ne peux pas laisser passer parce que le ministre a questionné mon indépendance, que c'est déjà très grave, il doit soit fournir les preuves, soit s'excuser et rétracter ce qu'il a dit. Et mon expertise, mais vraiment c'est hallucinant. Et voilà, c'est ce
Voilà,
que j'ai à dire à ce
c'est vrai.
sujet.
Vous avez raison, mais surtout qu'en fait, il intervient quelques jours après déjà un emballement médiatique qui avait été monté alors par notamment par Caroline Yadan, mais aussi une cinquantaine de députés français, dont quand même des anciens ministres comme Elisabeth Borne, Olivia Grégoire, Guillaume Kasparian, parce que tous finalement avaient émis une lettre justement au ministre des Affaires étrangères, appelant à votre démission. Et en effet, vous avez rappelé les propos que le ministre Jean-Noël Barrot a tenus dans l'hémicycle mercredi, mais ils sont quand même assez forts puisqu'il parle de paroles antisémites. Il a réclamé bien sûr votre démission et vous les avez rappelés, mais c'est vrai que ces propos sont quand même violents. Il cite des prises de position scandaleuses justifiant en effet le 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, évoquant le lobby juif ou encore comparant Israël, vous l'avez dit, au Troisième Reich. Il en conclut en fait en vous comparant finalement à une militante politique qui agite des discours de haine. Comment quand même réagissez-vous à ce contexte en France ?
Alors, je vois le contexte en France est très similaire de ce point de vue de contexte en Italie, et c'est pour ça que je sollicite l'attention des citoyens et des citoyennes, parce qu'il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se passer. Vous voyez, Israël a massacré, pour son propre admission, 75 000 personnes à Gaza. Et le 70% de ces personnes, et moi je le documente depuis octobre-novembre 2023, ont toujours été 70% enfants et femmes. Et on ne compte pas les personnes âgées, mais on doit vraiment voir ça. Et en plus, dans le contexte d'une occupation à Gaza, Cisjordanie et Jérusalem, qui même la Cour de justice internationale, qui est assez conservatrice, a reconnu en tant qu'illégale en demandant à Israël de retirer les troupes, les colonies et arrêter d'exploiter les ressources économiques et financières du peuple palestinien, parce qu'il s'agit d'une violation du droit à l'autodétermination. Alors, dans ce contexte-là, j'ai fait des remarques très fortes contre l'État d'Israël, autant que fortes ont été les remarques de la commission d'enquête sur Israël et Palestine, qui a documenté pendant 2 ans, et avec beaucoup plus de profondeur et de recherche, vu les moyens qu'ils ont, les actes qui l'ont amené à conclure qu'il s'agit de génocide, l'organisation israélienne B'Tselem, qui a écrit un rapport, d'ailleurs en hébreu, en l'appelant « notre génocide », et que c'est très dur à lire, c'est écrit par des Israéliens et des Israéliennes, et il y a vraiment, c'est très clair qu'il le consensus sur l'utilisation du terme « génocide » a rejoint un point où ça devrait quand même faire interroger le ministre de l'État français et l'État français comme l'État italien. Mais ce qui se passe en fait, c'est une autre chose. Qui en parallèle à ça, il y a des projets de loi poussés par des lobbies qui sont très proches à l'État d'Israël, en Italie, comme d'ailleurs, comme en France. Et dans ce contexte-là, dès qu'Israël a massacré 20 000 enfants, la priorité, c'est de s'occuper de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est très grave. La lutte contre l'antisémitisme fait partie de notre histoire européenne. Moi, ça fait partie de mon histoire à moi. Et c'est pour ça que je dis que l'antisémitisme existe, il faut le reconnaître, c'est la haine contre les juifs et les juives en tant que juifs et juives. Ça n'a rien à voir avec les jugements très très durs que moi et d'autres portons sur l'État d'Israël en tant qu'État membre de la communauté internationale. Je m'en fiche carrément de la religion que l'État d'Israël professe. Ça pourrait être bouddhiste, musulman, chrétien, laïque. Ça n'a aucune différence. Ça doit respecter les règles. Garder la population, une population civile, sans nourriture, sans aide médicale, sans maison, sans de protection, sans abri, ce sont des crimes. Tuer des enfants, c'est un crime. Vous voyez, et c'est très documenté. Et alors là, en France et en Italie, on avance des projets de loi qui font de la confusion et qui comparent la critique à l'État d'Israël avec l'antisémitisme. En fait, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de discuter, ce serait criminalisé si les projets de loi dont on parle en France et en Italie passe, mais vous vous rendez compte, en fait, ça confirme ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un système qui protège l'État d'Israël et ses crimes. Je l'ai dit dans un rapport que j'ai publié le mois de octobre 2025 auprès des Nations Unies. Il y a des acteurs financiers, des acteurs privés, des acteurs, des entrepreneurs, des business, des universités et d'autres, un autre, tout un système qui est en train de faire du business avec l'État d'Israël. Et moi, je n'ai rien contre l'État d'Israël, sauf qui commet des crimes internationaux. Et moi, je suis censée de parler de ces crimes. C'est même pas trop sympa, d'ailleurs, mon boulot. Gratuitement.
Et justement, vous parliez de poursuites, enfin, vous engagez des poursuites contre les ministres des Affaires étrangères par rapport aux propos qu'il a tenus. On vient de recevoir un communiqué d'ailleurs de
J'ai pas compris la question.
Vous avez dit que vous réfléchissiez peut-être à des poursuites à l'égard des propos du ministre des Affaires étrangères qu'il a tenus à votre rencontre, c'est ça?
Je suis en train de... en tant qu'experte des Nations Unies, je dois prendre... des mesures pour me protéger, bien sûr. Et je vais considérer avec les Nations Unies quelle est la façon la meilleure. Moi, je suis sûre et certaine qu'on peut régler tout ça. On se trompe. Peut-être que vraiment, il y a eu une faute, une négligence. Peut-être que monsieur le ministre, il a cru vraiment à ce que le président du CRIF et les autres, disons les parlementaires comme Madame Yadan lui ont mis sous le nez, évidemment, peut-être, il a cru, mais il s'est trompé. Quand on se trompe, tout le monde se trompe, c'est humain. On corrige, on rectifie. J'attends une rectification, ça c'est nécessaire, et ça, on va oublier tout ça. Voilà.
Et justement, il y a l'association Jourdi, vous savez, l'association de juristes internationaux, qui vient de publier un communiqué qui s'adresse au procureur de la République française pour déclaration de fausses nouvelles. Voilà. Il réclame aujourd'hui qu'une enquête soit menée à l'encontre justement des propos qui ont été tenus à votre égard. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en tout cas, voilà, il y a d'autres associations qui s'engagent à votre côté par rapport à ce qui s'est produit. Sur cette campagne médiatique, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'elle a lieu principalement en France ou même en Italie? Parce qu'on peut regarder dans la presse étrangère ou ailleurs, en fait, finalement, ça n'a jamais été relayé, ni même ça n'a jamais eu une telle polémique.
Parce que ça dépend, en fait. Ça dépend. Alors, il faut savoir qu'il y a tout ça ressort d'un milieu, d'une organisation qui est basée à Genève et qui est connue pour ses propos diffamatoires contre n'importe qui ose critiquer l'État d'Israël. Alors déjà, ceux-là qui ont eu ce mandat avant moi, John Dugger, Richard Falk, Michael Link avait été accusé d'antisémitisme, de soutenir le terrorisme. Avec moi, les accusations se sont faites, ont pris de l'ampleur parce que je suis écoutée plus. Parce que mon mandat s'est passé au temps du génocide, parce que je suis très ouverte aux médias, je participe à plusieurs colloques et tout. Je me sens vraiment comme un devoir moral de arrêter ce génocide. C'est quelque chose, et voilà, ça c'est l'éducation, celle de faire partie d'une Europe qui a eu de la conscience des crimes qu'on a commis le siècle passé, les crimes dans le milieu colonial, le génocide des Juifs et des Juives dans notre territoire. C'est très fort dans moi, c'est pour ça que je dis, mon travail s'inspire par ça. Pardon, j'ai oublié la question.
Non, c'était pourquoi est-ce que finalement c'est principalement en France que cette polémique arrive?
Mais alors, ça ressort de ce milieu. Ça ressort de ce milieu, de cette organisation. Et après, n'importe où il y a un lobby pro-apartheid, bon, ça se déclenche. Normalement, c'est l'Italie, où il y a une presse qui est assez, disons, un peu attentive aux faits, à la vérité des faits. On n'a plus l'habitude dans mon pays, pas tous, mais il y a beaucoup beaucoup de journalistes liés à très proches de la droite, des forces au gouvernement, qui ont perdu l'habitude de vérifier les faits à la base disons, de l'information. Et c'est décevant, mais c'est la réalité, et il s'agit de diffamation continue. Moi, jusqu'à présent, j'essayais de quand même garder une certaine distance et un équilibre en disant, par exemple, moi, j'ai toujours pensé que c'était pas bien de dénoncer, de porter plainte contre la presse, parce que pour moi, la presse doit être libre. Mais il y a une ligne rouge assez importante qui permet disons, de partager ce qui est liberté de critique, qui peut être dure, virulente et tout, et la diffamation. M'attribuer des propos qui n'ai jamais j'ai jamais prononcés, dire que j'ai participé à des à un colloque assise à côté de quelqu'un qui ressort d'une organisation qui est considérée terroriste en Europe, c'est quand même de la diffamation. Et on doit la corriger, ainsi que les autres propos. Aussi, le ministre a demandé ma démission comme disons, les représentants de Parlement et tout, sans justification. C'est très grave, c'est une menace. Tout d'abord, je le vois comme un acte trumpiste, comme quelqu'un l'a dit, dans le sens comment ça dépasse, disons, l'espace de la critique. Moi, j'étais sanctionnée par les États-Unis, qui c'est déjà quelque chose de très, très grave. Et là, le ministre des Affaires étrangères, en plus, demande la démission du rapporteur spécial. C'est sans précédent. Mais c'est là, je trouve qu'on est en train de justifier le brisement des garanties fondamentales du système multilatéral qui s'exprime aussi dans ça. Et je fais confiance à la France dans le sens un pays qui a comme valeur porteur la liberté, l'égalité et la fraternité peut et doit faire mieux.
Justement, en parlant de fraternité, vous étiez venu à la Fête de l'Humain pour dénoncer justement les crimes de génocide, pour raconter les attaques systématiques en Cisjordanie à l'égard des Palestiniens, l'occupation. Est-ce que vous pensez que cette polémique, finalement, c'est par rapport aussi à la parole que vous transmettez et toutes les enquêtes que vous avez menées pour
Oui.
révéler ce qui se passe du côté des Palestiniens?
Bah bien sûr. En fait, là, le propos du ministre que je dessert que je suis militante et que je dessert la cause palestinienne. Tout d'abord, la cause des Palestiniens et aux Palestiniens. Moi, je pense de toutes les façons, si je peux me permettre, que ce qui dessert le plus les Palestiniens, c'est le manque de justice, le manque d'application du droit international. C'est de se sentir confortable à parler de la reconnaissance de l'État palestinien comme l'État français le fait, sans s'occuper aussi du génocide. On ne veut pas parler de génocide, je le respecte, c'est faux, mais je le respecte parce que déjà la Cour de justice internationale, le mois de janvier 2024, a reconnu le risque irréparable aux Palestiniens. Danger, pardon,
Danger,
comment on dit danger?
danger, danger,
Ah,
danger.
pardon, pardon. Déjà, vous allez le couper,
Oui, il n'y
n'est-ce
a pas de
pas?
souci. Oui.
Ok. Déjà, le mois de janvier 2024, la Cour de justice internationale a reconnu le risque de danger irréparable au peuple palestinien à Gaza suite à l'attaque qu'il était en train de subir de la part d'Israël. Ça, c'est déjà, selon la jurisprudence internationale, une mise en alerte, une sonnette d'alarme que le génocide peut se passer. Et comme dans la Convention sur le génocide, on a l'obligation de prévenir, d'arrêter et après de punir le génocide, la prévention a déjà déclenché, l'obligation de prévenir a déjà été déclenchée dans le cas d'Israël. Et moi, je trouve que aucun État, sauf des États du Sud global, a fait assez, surtout l'Europe. L'Europe a été très faible et, disons, en accompagnant les décisions, les choix, la politique, les décisions d'Israël et des États-Unis. Et c'est ça qui dessert le peuple palestinien. Mais ceci dit, moi, je ne sers pas le peuple palestinien. Disons, ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon mandat. Moi, je sers une mission différente, c'est de parler et de dénoncer les violations du droit international commises par Israël dans le contexte de son occupation, qui a presque 60 ans, de le territoire palestinien occupé. C'est ça?
Justement, vous parlez des pays du Sud qui ont dénoncé les crimes de génocide, qui ont pris des positions claires à l'égard de ce qui se passait à Gaza. Il y a eu quand même l'Irlande et l'Espagne qui ont essayé, en tout cas, de ne pas rester silencieuses face à ce qui se passait. Mais finalement, aucun pays, aucune en tout cas, ni même l'Union européenne, n'a émis la moindre sanction à l'égard d'Israël. Pourquoi finalement un tel silence ou un manque de courage?
Et on revient à mon propos, celui-là que j'ai prononcé pendant la réunion de Doha. Il y a un système où les citoyens et les citoyennes ne voient pas forcément leur volonté se traduire dans une prise de responsabilité. Et ici, on ne parle pas disons, de volonté populaire déchaînée. On parle d'obligations constitutionnelles dans les démocraties européennes. On parle de droit international qui a des obligations, du jus cogens, ce sont des obligations incontournable qu'il faut respecter, sinon on s'implique dans des responsabilités en tant que tel, les États qui ne répondent pas à ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est tout un système qui n'est pas nouveau, parce que ça ressort vraiment d'une pédagogie coloniale. Les Palestiniens peuvent mourir en dizaines, centaines, des milliers, des douzaines de milliers. Peut-être il y a 10 000 enfants amputés. Il y a 40 000 personnes qui ont été amputées. Il y a 6 000 personnes seulement à Gaza qui n'ont plus un seul membre de leur famille. Vous voyez? C'est tellement énorme ce que Israël a fait à Gaza et les autres pays ont laissé faire à Gaza, que ça me fait revenir au passé. Parce que quand je dis, il y a un discours que je trouve très dangereux, soit dans certaines parties d'Europe, en Italie comme en France, en disant, bon, le génocide s'est passé parce qu'il y avait le nazifascisme. On ne tue pas 6 millions, 6 millions de citoyens et de citoyennes appartenant à un groupe particulier sans s'en apercevoir. Ils étaient nos concitoyens et concitoyennes. Ils ont été enlevés de leur maison qui était à côté des nôtres, pas nous, mais ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça que je dis, tout le monde savait qu'on était en train de tuer des juifs et des juives, des Romains Sinti et des autres qui n'étaient pas conformes à ce que les nazis fachos définaient, voyaient comme la race pure. Mais c'est ça, les Palestiniens n'ont pas le même respect que les autres dans ce monde. Et ça veut dire, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une mise en cause de l'universalité des valeurs de la France, l'égalité, la liberté, la fraternité, la dignité. Moi, je me bats comme je me bats parce que je crois fermement que mes droits sont vos droits et les droits de n'importe qui. Si les droits de quelqu'un sont violés de façon autant féroce et avec la complicité d'État et secteur privé, ça veut dire que ces droits ne sont pas vraiment universels. Et à l'heure, il faut rétablir un ordre. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est cela qu'aujourd'hui vise la Palestine, c'est un combat universel. Ce n'est pas parce que j'ai des sympathies particulières pour les Palestiniens. C'est un peuple très gentil, très aimable. Mais ce n'est pas ici le point. Le point, c'est que j'ai un mandat de documenter ce qui se passe dans le territoire, dans ce peuple a le droit d'avoir un État indépendant. La France le reconnaît. Oui, la France a reconnu l'État de Palestine. A fait quoi pour protéger la France, pour protéger l'État de Palestine des agressions continues de la France, pardon, de l'État d'Israël à travers son armée et son armée de soldats et son armée de colons qui portent de la terreur chaque jour parmi des civils en Cisjordanie. On est d'accord. C'est pour ça que je dis, il faut regarder les faits. Il faut que la. Moi, j'ai vraiment une admiration profonde. Je suis très attachée à la France, à sa culture d'activisme, à ses talents, à ses intellectuels et tout. Et ça me choque de voir. Ça me choque de voir ce qui se passe maintenant. Parce que il a. Et moi, je le vois, je voyage souvent en France, comme il s'est passé à la fête de l'humanité. En France, comme en Italie, il y a de plus en plus de la suspension de non-liberté fondamentale à nous. La liberté académique, la liberté d'exprimer, contrariété à ce que le gouvernement fait de façon pacifique et dans les limites de l'ordre public. On ne peut pas le faire, on se fait tabasser par les. Par la police. Moi, je le vois constamment en Allemagne, en Italie. Ce n'est pas normal. On a déjà dépassé les limites de. Et il y a un retour d'un autoritarisme qui commence à se faire sentir. On doit prendre conscience de ça. Moi, je parle en tant qu'européenne, vraiment européenne avec une conscience de la justice très forte. Et on peut ne pas être d'accord avec moi. Avec les mots que je choisis, avec mes analyses juridiques, ça c'est tout à fait acceptable. On ne peut pas m'insulter, on ne peut pas me défamer, comme le ministre de l'État français l'a fait.
Très bien. Par rapport justement à votre mandat sur les territoires palestiniens, il y a un accord de cessez-le-feu qui a été signé par le Hamas et le gouvernement israélien depuis le mois d'octobre. Un plan qui a été mis en place par Donald Trump, mais où en est concrètement la situation à Gaza?
Que le génocide continue. Il y a presque 600 personnes qui ont été tuées depuis la proclamation de ce cessez-le-feu. Israël ne laisse pas entrer du personnel médical suffisant, des équipements médicaux. Les gens ont passé des mois et sont encore à passer du temps dans des tentes inadéquates qui ne les protègent pas. Et il y a des enfants qui meurent pour hypothermie. Le 2026, à Gaza, on n'est pas en Ukraine avec ces températures rigides, non, on est à Gaza. Oui, il fait froid. Mais mourir d'hypothermie à Gaza, vous savez, et ça c'est UNICEF qui le dit, qu'est-ce que ça signifie? Que les enfants sont mal nourris parce que leurs mères sont mal nourries. C'est impossible de comprendre ce qui se passe à Gaza si on est tellement dans cette, voilà, dans cette prison mentale qui nous empêche de voir ce qui s'est passé. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il y a encore un contrôle presque total d'Israël sur la bande de Gaza dans le contexte d'une occupation, je le répète, qui est illégale et il faut démanteler totalement et sans condition. Et en plus, on est passé, comme une parlementaire italienne le dit, de l'immobilisme occidental à l'immobiliarisme. Parce qu'en fait, maintenant, on parle de reconstruction. Il y a les immobiliaristes des États-Unis, on se fait manquer rien, vraiment en Palestine, qui viennent avec leur projet de reconstruire Gaza. Excusez-moi, monsieur, mais on doit faire entrer les experts pour identifier les scènes de crimes, de massacres, les fosses communes. Gaza était le théâtre de crimes incontournables qui ont déjà marqué violemment ce siècle, qui risque de devenir un modèle. Se débarrasser de civils dans cette façon peut devenir un modèle parce qu'en fait, l'Occident, là, est en train de protéger Israël parce que la démocratie israélienne qui donne le droit de vote à quelqu'un en le niant à des millions d'autres, mais quand même se présente comme une démocratie similaire à la nôtre, est bien un exemple des démocraties libérales qui en fait commencent how do you say, stretch
Se
and
resserrer, se
constrain,
resserrer, se resserrer.
à serrer l'espace pour l'exercice des libertés fondamentales, même la liberté d'expression, la liberté académique, la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté de manifester sa propre identité culturelle, le porte du kefia. Mais c'est pour ça que je dis, il faut ouvrir les yeux. Je viens d'écrire un livre qui a ce but en fait. Il s'appelle comme le Mont d'Or parce que, et je l'ai présenté d'ailleurs en France, parce que on s'est endormi. On s'est endormi et c'est quand on s'endort, quand la raison s'endort, qu'on génère des monstres. On est dans ce contexte-là, on a encore du temps et on doit protéger ce qu'on appelle démocratie libérale. Des démocraties où le vote de chacun, où la voix de chacun a un poids, mais il y a deux éléments fondamentaux. La justice sociale, il n'y a pas des privilèges et des soumis, des privilégiés et des soumis, il y a des citoyens avec des droits et des obligations, toutes et tous, et il y a la liberté de tous et toutes, dans les limites, voilà, des constitutions et du droit international.
Et on a parlé de Gaza, mais finalement en Cisjordanie, on voit que les choses aussi évoluent très vite. Encore ce dimanche, d'ailleurs, le gouvernement israélien a fait voter une loi pour accélérer finalement le processus de colonisation, puisqu'il vient de faciliter ouais, l'annexion en annonçant une série de mesures techniques. Finalement, cette décision, encore une fois, est totalement illégale au regard du droit international. Pourquoi finalement, ouais, encore une fois, un tel silence face à des mesures qui se succèdent à l'égard des territoires palestiniens?
C'est ce que j'appelle pédagogie coloniale. Aux Palestiniens, on peut tout infliger. Vous voyez, c'est pas que c'est nouveau, hein. La colonisation en morceaux à la fois, c'est ce que les Palestiniens vivent depuis toujours. Dans le territoire palestinien occupé, chaque jour, Israël prend un morceau de terre de plus. Aujourd'hui, il contrôle presque tout. Et c'est-à-dire même les accords de Oslo, mauvais qu'ils étaient, Israël n'a plus besoin de se sentir lié à ça parce qu'Israël a très bien compris, l'État d'Israël a très bien compris qu'il peut bénéficier avec ses gouvernements dans des démocraties occidentales, il peut bénéficier de l'impunité. Parce qu'à la fois, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un ministre qui se lève et crée une lettre ou un communiqué de presse où il se dit très concerné, très préoccupé et très fâché pour ce qu'Israël a fait. Et demain, on passe à autre chose. Non, on ne fait pas comme ça. Même avec un enfant. Il y a des règles, il faut faire respecter les règles. Mais ça va changer. Parce que pour la génération, et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette attente désespérée de me faire taire. Parce que la chose la plus préoccupante en Italie comme en France, peut-être, c'est que aussi il y a un mal-être parmi les plus jeunes dans la société. Et les plus jeunes ont un mal-être parce qu'ils ne se sont pas représentés et tout. Mais ils voient ce qui se passe en Palestine et se sont touchés parce que pour eux, ce n'est pas comme pour moi d'apprendre un génocide sur les bouquins à l'école. Non, ça c'est it's history in the making. C'est l'histoire qui se fait blessure, quoi. Et sous leurs yeux, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça que avoir quelqu'un qui leur explique ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et il y a des règles pour corriger tout ça, ne va pas à tout le monde. Clairement, il y a des parlementaires français qui sont malheureux avec ça.
Ben merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose?
Non, vive la liberté, l'égalité et la fraternité à toujours et pour tous et toutes.
Ben merci beaucoup à vous. Très bonne fin de journée et encore merci d'être venu en tout cas à notre micro.
Merci Madame Albanese et merci à l'humanité. Nous allons entendre Elba Ramouni et Ronnie Broman sur l'exclusion de Médecins Sans Frontières de la bande de Gaza par Israël, même si ce projet a été temporairement reporté.
La riposte d'Israël au massacre du 7 octobre 2023 s'est traduite par une campagne génocidaire à Gaza, où un siège est imposé aux quelques 2 millions d'habitants. Depuis 2 ans, Gaza fait donc face à un déchaînement à une échelle inédite dans le conflit israélo-palestinien de tuerie et de destruction. On observe un nombre record de victimes civiles avec environ 90% de civils parmi les morts, un nombre record de journalistes et de travailleurs humanitaires tués, environ 500 humanitaires tués, dont 15 membres du personnel de MSF. À cela s'ajoutent 10 000 prisonniers détenus sans jugement dans des conditions indignes dans les prisons israéliennes, dont des dizaines de morts sous la torture. Le 30 décembre, 37 ONG internationales ont reçu une notification officielle indiquant que leur enregistrement expirerait le 31 décembre 2023. 2025. Cela déclenche une période de 60 jours, à l'issue de laquelle ces ONG internationales sont tenues de cesser leurs opérations à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Depuis la fin du mois de décembre, Médecins Sans Frontières fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de diffamation de la part des autorités israéliennes. Celles-ci relaient, via leur compte officiel, mais aussi par des contenus sponsorisés en ligne, de fausses informations à l'encontre de Médecins Sans Frontières. Aujourd'hui, Médecins Sans Frontières n'est plus autorisé à acheminer du matériel médical ni à maintenir la rotation de son personnel international à Gaza. Dans cet entretien, nous allons tenter de comprendre ce qui se joue derrière cette interdiction. Deux éléments principaux se dégagent. Cette interdiction s'inscrit dans une continuité depuis 2 ans durant lesquels Israël organise l'entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire en dépit du droit international. Cette interdiction marque la volonté d'instaurer un huis clos à Gaza. Interdire les ONG, c'est les empêcher de témoigner de la situation. De la même manière, les journalistes internationaux ne sont pas autorisés à rentrer à Gaza et les journalistes locaux ont été durement ciblés. Pour comprendre ce tournant dans la guerre à Gaza, je vais interviewer Roni Broman. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Roni Broman est médecin, diplômé en médecine tropicale et en épidémiologie. Il s'est engagé dans l'action humanitaire en 1977 au sein de Médecins Sans Frontières, donc quelques années après la création de l'organisation en 1971. Il a effectué de nombreuses missions, principalement dans des contextes de déplacement de population et de conflits armés. Il a été ensuite président de Médecins Sans Frontières de 1982 à 1994. Roni Broman est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'humanitaire et il étudie depuis de nombreuses années le conflit israélo-palestinien. Salut Roni.
Salut Elba.
Avant d'aborder notre sujet principal, donc sur la critique de MSF et son interdiction en Palestine, j'aimerais te questionner sur le cessez-le-feu. Le 13 janvier dernier, lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'UNICEF y disait « Plus de 100 enfants ont été tués à Gaza depuis le début du cessez-le-feu ». Donc face à la situation actuelle, est-ce que tu dirais que le cessez-le-feu n'est qu'un mot sans réalité concrète ?
Non, ce serait trop dire. Le cessez-le-feu a une réalité concrète dans la mesure où, jusqu'au 10 octobre dernier, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la population de Gaza était soumise à un bombardement constant réalisé par notamment des avions, des F-35, des F-15, qui ont causé une mortalité absolument gigantesque en balançant des bombes énormes. Et ça s'est arrêté. Donc le cessez-le-feu a représenté un répit significatif pour les Palestiniens, auquel il faut quand même prêter attention. Cela étant, 450 personnes ont perdu la vie, dont 100 enfants, comme le rappelait le délégué UNICEF, ce qui montre que le cessez-le-feu n'est pas la paix. Le cessez-le-feu, c'est un moment de la guerre. Et il est évident, comme l'a d'ailleurs dit le Premier ministre israélien, que Israël continue à poursuivre ses buts de guerre par des moyens légers ou par des moyens lourds, the hard way ou the soft way, comme il l'a dit, c'est-à-dire désarmement du Hamas, reprise du contrôle total de la bande de Gaza. Donc le cessez-le-feu appartient au vocabulaire de la guerre et s'inscrit dans la guerre. Mais c'est tout de même une guerre retenue, et donc, malgré tout, le répit dont jouissent les Palestiniens, qui vivent des conditions infernales, par ailleurs, compte tenu du fait qu'ils vivent dans un tas de décombres, sous des tentes qui ne les protègent pas des intempéries. Nous parlons un moment en hiver, il peut faire très froid, il y a une tempête qui vient de passer sur Gaza, donc les conditions de vie, d'hygiène, d'alimentation, de repos, de vie collective sont absolument épouvantables, d'autant qu'Israël a interdit l'entrée de préfabriqués, qui 200 000 préfabriqués étaient prêts à être livrés à Gaza, passés par la frontière égyptienne, par le passage de Rafah, et les Israéliens, pour des raisons qui les regardent, simplement disons inscrite dans la stratégie d'épuisement des Palestiniens, qu'ils ne cessent de poursuivre, les Israéliens ont empêché cela. Donc on voit bien que la stratégie globale, l'asphyxie, l'épuisement, la terreur, qui sont les maîtres mots, je pense, de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, tout cela est encore en vigueur. Mais malgré tout, les bombardements, eux, ils ont cessé.
Depuis fin décembre, MSF fait l'objet d'une campagne de dénigrement de la part des autorités israéliennes. Pour donner un exemple, quand on tape MSF aujourd'hui sur Google, le premier résultat sponsorisé qui apparaît, c'est un rapport à charge contre MSF. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les principales critiques qui nous sont adressées et comment MSF répond à ces critiques, notamment celles de notre supposé manque de neutralité? Et puis, peut-être, à ton avis, quelles sont les intentions, les buts des autorités israéliennes en s'en prenant comme ça aux ONG internationales?
Depuis donc le 31 décembre, MSF, comme 36 autres ONG internationales, n'a plus d'accréditation et donc se voit menacée d'expulsion de la Palestine, dans son ensemble, d'ailleurs, de la Palestine occupée, qu'il s'agisse de Gaza ou de la Cisjordanie. La particularité d'MSF, c'est que nous sommes en effet visés par une campagne spécifique qui ne s'adresse que à MSF, une campagne de dénigrement, en effet, mettant en cause notre probité, notre neutralité, nous accusant de dissimuler, consciemment ou non, des terroristes. J'utilise évidemment des guillemets parce que c'est le vocabulaire israélien, et de ne pas être transparent dans la mesure où nous n'avons pas répondu à la demande des Israéliens de fournir la liste de notre personnel palestinien. MSF veut avoir des garanties que ces listes ne seront pas mal utilisées et donc veut savoir dans quelle mesure les Israéliens en ont besoin pour quoi faire. Parce que les Israéliens ne sont pas théoriquement l'autorité de référence à Gaza. Ce sont les Palestiniens qui théoriquement pourraient nous demander ces listes. Tout en sachant et en disant d'ailleurs publiquement que la question n'est pas là. Ça n'est pas la liste de notre personnel. D'autant plus nous sommes absolument convaincu, compte tenu du renseignement dont bénéficient les Israéliens, qu'ils savent très bien qui travaille, qui fait quoi, qui est employé par Médecins sans frontières et qui ne l'est pas. L'autre raison, c'est naturellement, enfin l'ensemble des autres raisons, ce sont les positions publiques qu'a prises MSF tout au long de ce conflit, le fait que nous ayons parlé de génocide, de massacre délibéré, de tentative d'anéantissement de la bande de la population de Gaza. Donc toutes ces critiques, ces accusations, ces prises de position publiques sont considérées comme irrecevables, mensongères, insultantes, diffamatoires par Israël. Et c'est ce qui nous est reproché principalement. Et je réponds à l'autre partie de ta question d'emblée. Ce que cherche à faire Israël là, c'est à avoir des ONG qui seront dociles, seront des loyaux exécutants de sa politique, sans récrimination, sans déclaration tonitruante, sans critique d'Israël. Donc, organiser une sorte de huis clos, mais avec des ONG extérieures, de sorte que Israël puisse expliquer à ses alliés, à la communauté internationale, aux gens qui observent, qu'elle fait preuve de bienveillance vis-à-vis des Palestiniens. La preuve, c'est que plusieurs dizaines d'ONG sont à pied d'œuvre là. MSF ne pourra pas être remplacé, on y reviendra, mais MSF ne peut pas être remplacé comme ça. Il n'y a pas tant d'organisations médicales dans le monde et il n'y en a aucune qui puisse prendre la place directement de MSF. Un des arguments phares d'Israël concerne la supposée absence de neutralité, les supposées failles de neutralité dont nous ferions preuve du fait de notre positionnement public. Et là, il faut s'arrêter un instant sur ce qu'on entend par neutralité. La neutralité au sens forme du terme, ce sont deux choses différentes. D'une part, le fait de ne pas communiquer des moyens, des ressources supplémentaires à l'un des belligérants, c'est-à-dire ne pas prendre parti directement dans le conflit en fournissant du matériel, des renseignements à l'un des belligérants. Et cela, évidemment, c'est une exception de la neutralité que nous faisons nôtre. La MSF ne fournit aucune ressource, aucun renseignement à des belligérants, que ce soit à Gaza ou dans d'autres circonstances de guerre. L'autre partie de la neutralité, que l'on connaît moins et qui est importante à avoir à l'esprit, c'est le fait de s'abstenir, enfin de considérer que les blessés, les malades, les lieux de soins et les équipes soignantes sont soustraites à la logique de la confrontation et sont en quelque sorte neutralisées par rapport au conflit. Donc la neutralité est une obligation que doivent s'imposer les belligérants, au regard des conventions de Genève, vis-à-vis des populations et des lieux civils ou non combattants, c'est-à-dire soustraits à la logique des combats. Donc lorsque Israël attaque des hôpitaux, emprisonne des soignants, s'en prend à des patients, c'est Israël qui est coupable d'une rupture de cette obligation de neutralité à laquelle elle doit souscrire en tant que membre signataire de la Convention de Genève. Donc on peut retourner, et moi personnellement je retourne contre Israël, cette critique de manquement de la neutralité. Quant au fait que prendre la parole, ce serait une brèche dans la neutralité, ça c'est une conception diplomatique de la neutralité qui regarde peut-être la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge qui pour des raisons particulière en tant que gardien des conventions de Genève, en tant que visiteur de prison, s'abstient de parler publiquement des conditions dans lesquelles elle travaille, mais ça ne s'applique pas du tout aux organisations humanitaires. Et donc la neutralité, le silence en tant que preuve, en tant que manifestation de neutralité, ça, c'est Israël qui décide que c'est le cas, mais ça n'a jamais été le cas pour Médecins Sans Frontières. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez... affligeant dans cette remarque, car d'une certaine manière, la notion d'ingérence, en tout cas de témoignage humanitaire, est née du silence de la Croix-Rouge devant le génocide des Juifs pendant la guerre mondiale. Aujourd'hui, Israël nous reproche de prendre la parole alors que nous sommes confrontés à un génocide en cours à l'intérieur duquel nous tentons d'agir. Il y a donc là un paradoxe tout de même qui mérite d'être souligné.
Alors justement, je voulais revenir sur la question du génocide que tu as évoqué lorsque tu parlais de la neutralité. Il y a beaucoup de publications du CRASH qui insistent sur la nécessité de négocier et de se rendre utile auprès des autorités pour avoir accès au terrain et ménager notre sécurité. Mais dans le cas de Gaza précisément, où on voit que depuis de nombreux mois, MSF dénonce un génocide, où l'aide elle est entravée constamment, où la sécurité elle est menacée avec, je le rappelle, 15 staff MSF tués. Finalement, est-ce que là, on n'arrive pas aux limites de notre action face à un gouvernement génocidaire ? Et du coup, est-ce que ça, c'est un débat chez MSF ? Est-ce que sur la poursuite ou non de nos opérations dans un tel contexte, en fait ?
Mais disons que dans une situation extrême comme celle-ci, on en a connu d'autres également, au Rwanda dans les années 90, en Bosnie aussi d'une certaine manière, et dans quelques autres situations, on a le sentiment en effet de toucher aux limites de l'humanitaire. Néanmoins, rappelons-nous que nous avons nous avons accompli plus de 20 000 interventions chirurgicales, plus de 100 000 consultations, approvisionner en eau de nombreuses personnes, bref, qu'il y a lieu tout de même d'être fier de ce qui a été réalisé en dépit de la violence extrême de la guerre israélienne contre la population palestinienne, en dépit du fait que cette guerre a été d'ordre génocidaire en effet, nous avons pu travailler, et si nous avons pu travailler, c'est parce qu'aussi notre présence était tolérée par les Israéliens, qui voyait un avantage. Et les travaux du CRASH ont effectivement montré que si un pouvoir ne trouve aucun avantage, qu'on appelle instrumentalisation ou pas, mais aucun avantage à la présence et au travail d'une organisation humanitaire, on ne voit pas pourquoi il nous tolérait. Il faut qu'il en tire un bénéfice pour nous accueillir. Il en a tiré un bénéfice. Il estime manifestement que ce bénéfice est consumé aujourd'hui.
Alors lequel à ton avis ?
Ben, le fait que les Israéliens, pour terminer le travail, pour mettre en place la phase 2 du plan Netanyahou-Trump, c'est-à-dire la mise en chantier d'une grande partie de la bande de Gaza et la concentration de la population palestinienne dans une petite bande de terre qui sera une espèce de bidonville construit sur des détritus, une sorte de dépotoir à réfugiés, là, les Israéliens estiment qu'ils nous ont assez laissé opérer et qu'il leur faut des ONG qui leur permettent d'opérer complètement à huis clos sur ce plan d'occupation. Donc d'opérer à huis clos, ça ne veut pas dire totalement dans un face-à-face israélien-palestinien, ça veut dire un acteur tiers, comme des ONG, qui sont pour l'essentiel des évangéliques états-uniens, totalement pro-israéliens, s'inscrivant, se reconnaissant dans les buts de guerre israéliens, approuvant ceci. et donc qui ne causeront aucun problème d'ordre politique aux Israéliens. Donc une forme de huis clos qui permet un micro-aménagement du désastre installé par les Israéliens, mais entièrement au bénéfice de la force d'occupation israélienne. Voilà, je pense, ce qui peut caractériser la phase actuelle. Dans ces conditions, au-delà même du fait que nous sommes en pratique expulsés, enfin expulsés doucement, mais expulsés du territoire palestinien de Gaza, on peut considérer que de toute façon, en effet, on n'a plus rien à faire. La phase aiguë, pendant les 2 ans et quelques mois qu'a duré cette guerre intense, nous a mis dans une situation où nous opérions en urgence tous les jours à tour de bras des blessés qui, sans cela, seraient morts. Donc il y avait vraiment une utilité directe, immédiate, induite par la situation de guerre ouverte. Là, cette situation de violence plus torpide, plus retenue, plus souterraine, nous met dans une toute autre situation. Et je pense que la situation des ONG va être d'être des exécutants plus ou moins dociles, mais enfin, les Israéliens attendent cette docilité, et créer une situation dans laquelle, je pense, nous n'avons plus rien à faire.
À l'époque aussi, il y avait le fait qu'il y avait tout notre personnel MSF qui était déjà sur place et qui, par ailleurs, était enfermé. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le fait qu'on décide de mettre en place des opérations
Disons que ça rendait toute décision de départ plus compliquée, parce que nous avons 1200 employés palestiniens ou membres palestiniens de Médecins Sans Frontières, plutôt. Je le rappelle pour ceux qui n'en seraient pas tout à fait conscients qu'il s'agit de gens qui sont chirurgiens, médecins, infirmiers, physiothérapeutes, mais aussi le chauffeur, logisticien, enfin que c'est le gros de l'équipe de secours que nous avons déployé là-bas. Et en effet, en cas de départ de MSF, eux, ils n'ont pas le loisir de partir. Donc c'est un facteur de retenue. Mais de toute façon, je pense que nous ne serions pas partis. Parce que pendant les 28 mois, disons, de guerre intense que nous avons connue, le travail était extrêmement prenant. Et le sens de ce travail s'imposait de lui-même. Certes, opérer des gens qui vont être réexposés à des bombardements, ça peut ouvrir à une sorte d'interrogation sur la futilité ou l'inutilité de la chose. Mais pour les gens qui sont opérés, si on regarde au-delà des grandes masses, mais dans la relation individuelle avec les gens qui sont victimes de ces bombardements, ça prend tout son sens. Donc je crois qu'il n'y avait pas d'interrogation de fond, autre que d'ordre métaphysique, mais c'est pas notre souci ici. Il n'y avait pas d'interrogation de fond sur le sens de notre action et son utilité. Aujourd'hui, dans la nouvelle configuration, qui est la mise en exécution du plan Netanyahou d'asphyxie des Palestiniens, que pouvons-nous faire ? Pratiquement rien. Donc je pense que là, l'humanitaire peut assez rapidement s'ériger en faux-semblant, en une espèce de théâtre d'ombre, qui est vide de tout sens. Donc, à mon avis, le retrait, de toute façon, est une bonne chose. Mais il y a débat, en effet, au sein de Médecins Sans Frontières. C'est un débat légitime. Je défends, moi, là, une position en disant « ça n'a vraiment plus grand sens ». Pour d'autres, et c'est une position tout à fait respectable, tant qu'il y a une aide à apporter, il faut rester auprès de ceux que l'on peut soutenir. Et ma foi, c'est aussi un des ressorts profond de l'humanitaire qu'on ne peut pas jeter par-dessus bord comme ça. Et moi, il me semble que ça se vide peu à peu de son sens et qu'il faut savoir, dans ces conditions, se retirer.
Tu disais que MSF ne pourrait pas être remplacé. Actuellement, MSF soutient un lit d'hôpital sur 5 à Gaza et à peu près un tiers des accouchements. Donc cette aide, elle est évidemment loin d'être suffisante, mais on imagine bien que la supprimer aurait des conséquences terribles. Est-ce que tu peux dire 2 mots à ton avis sur les conséquences d'une expulsion de MSF, à la fois pour les populations civiles, mais aussi pour l'ensemble du dispositif humanitaire ?
Ben, il y a en gros 2300 lits hospitaliers actuellement fonctionnels, en tout cas partiellement fonctionnels, à Gaza. Là-dessus, il y en a environ 450. Qui sont gérés par Médecins Sans Frontières. Si nous sommes expulsés, ces 450 lits ne seront plus géré par personne et aucune organisation ne peut reprendre de but en blanc comme ça la gestion de 450 lits hospitaliers. C'est quand même tout à fait considérable. Donc ça veut dire que des blessés et des malades ne seront plus soignés et opérés, que des consultations ambulatoires ne pourront plus être assurées, en plus du fait que un certain nombre d'accouchements, en effet, sont assurés par MSF, de même que la distribution d'environ un quart des rations d'eau potable qui va être laissée à l'abandon. Donc les conséquences vont être en effet très rudes pour les Palestiniens.
Un grand merci à MSF et Ronnie Broman, et à bientôt pour un nouveau replay.